les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Ah, la vie en Amérique. Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour. Tel était le sous-titre de l'émission La Tribune de Paris. À l'ordre du jour. Mais quel jour? Soyons précis, il s'agissait du 10 septembre 1947. Quelle vision de l'Amérique et de l'Américain moyen avait, sinon la France, du moins les Français, non pas moyens, mais des Français ayant vécu quelque temps en Amérique? L'amour de l'argent, les manteaux de vison, le racisme, l'antisémitisme, les femmes âgées, veuves, riches et laides, ayant trop de pouvoir, sic, sur les hommes, leur créant un complexe d'infériorité, les pauvres. Mais aussi la liberté d'expression absolue, et ses dangers peut-être, et le fair play américain. Répétons-nous, nous étions le 10 septembre 1947.
Tribune de Paris.
Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
Beaucoup de reportages, d'études, de films ont renseigné le public français sur les divers aspects techniques, politiques ou sociaux des États-Unis d'aujourd'hui. Mais on sait moins peut-être ce qu'est, de l'autre côté de l'océan, la vie quotidienne de l'Américain moyen.
C'est ce que nous dirons ce soir, quatre Français de retour des États-Unis.
Autour du micro sont réunis...
Un avocat, Maître Henri Torres.
Un homme de cinéma, Maurice Bessy, directeur de Cinémonde.
Un couturier, Pierre Balmain.
Et un journaliste, Maurice Van Boppès.
Paul Guimard va mener le débat.
Eh bien, sur un sujet aussi vaste, il n'est évidemment pas besoin de poser de questions précises et nous nous bornerons à vous passer tout simplement la parole. Maître Henri Torres.
J'ai beaucoup vécu en Amérique, mais si vraiment New York même est l'Amérique, j'aime la vie américaine. D'abord, à dire vrai, parce que à New York, on peut vivre sans parler un mot d'anglais et sans se faire remarquer. Ce fut mon cas et le cas de... mon ami Buret, qui n'a pas encore pu traduire ni un boc ni un demi en langue britannique. Puis j'aime à New York sa puissance d'indifférence, d'où naît une prodigieuse et miraculeuse liberté, une liberté de tous les jours, une liberté dans tous les détails de la vie, une liberté d'expression, je dois dire, absolue. Parce qu'avec Buret, nous avons dirigé un journal qui, au moment où l'Amérique hésitait à reconnaître dans le gouvernement du général de Gaulle l'expression de la souveraineté populaire française. Nous avons fait campagne contre le gouvernement américain. J'ai fait 3 meetings contre le président Roosevelt à New York. Je n'ai jamais eu la plus petite représaille sous une forme directe, ou indirecte, la plus petite menace, la plus petite intimidation, la plus petite brimade administrative. C'est ce que j'aime dans la vie new-yorkaise.
Maurice Bessy, oh pardon, je vous en prie.
J'aime aussi le fair play, parce que si les Américains, comme tous les peuples ont des défauts collectifs et individuels. Il y a là une grande vertu à la fois individuelle et collective qui s'appelle le fair play. On pourrait définir sur un plan philosophique un peu élevé, un peu prétentieux, le respect de l'homme par l'homme, mais qui est quand même une certaine acceptation librement consentie de toutes les disciplines et toutes les opinions. Alors c'est ce fair play américain qui, si vraiment nous sommes les uns et les autres sincères avec nous-mêmes, doit être enfin la trame de notre petit entretien d'aujourd'hui. Parce que le fair play américain, c'est vraiment ce qui distingue l'Amérique. Et c'est ce qui fait que, sans être d'accord bien entendu sur tout, en reprochant peut-être à l'Amérique de ne pas nous apporter toute cette flexibilité dans la grâce, dans la gentillesse, dans la délicatesse, enfin tout ce qui caractérise essentiellement notre peuple, il y a quand même une leçon très tonique à emprunter pour chacun de nous de se faire plaire puissant et fort et net et humain et viril.
Maurice Bessy.
Je n'ai pas eu la chance, comme Maître Henri Torres, de vivre longtemps aux États-Unis. J'en reviens, j'ai été un voyageur et en effet, j'ai beaucoup apprécié et ce fair play et cette franchise, surtout, que l'on trouve toujours chez les Américains. Et en tant que voyageur, j'ai surtout apprécié le fait que personne ne se préoccupe de tous les petits événements de la vie quotidienne dont nous nous préoccupons, n'est-ce pas? C'est-à-dire que Je reviens d'un pays où les affaires d'alimentation, où les affaires de restauration, les affaires de vêtements, tout ça passe absolument inaperçu. Et tout ce qui nous préoccupe, par exemple l'avion, ne préoccupe absolument plus l'Américain. Nous avons un peu l'impression d'être 10 ans ou 15 ans en retard sur eux. Nous voyons les gens là-bas, les mains dans les poches, aller prendre l'avion pour faire 5 ou 6 000 kilomètres, comme nous voyons les gens chez nous prendre le métro. Et au surplus, il y a encore une chose que je tiens à signaler, c'est que chez nous, je reprends un peu l'idée de mettre Henri Torres, chez nous, nous avons toujours l'impression que nous travaillons pour cette chose horrible qu'on appelle gagner sa vie. L'Américain donne l'impression qu'il travaille non pas tant pour gagner sa vie que pour améliorer sa vie. On a toujours l'impression que chaque fois qu'il fait un effort, cet effort doit améliorer son standing de vie, doit améliorer en même temps le progrès de tous ses semblables.
Je ne suis pas entièrement de ton avis.
Sais bien, c'est pour ça que je l'ai dit.
Pas du tout même.
Maurice Van Mopes qui parle.
Parce que je trouve au contraire que gagner sa vie est devenu un problème d'une âpreté beaucoup plus grande aux États-Unis qu'en France. D'abord parce que beaucoup de gens sont endettés. Parce que les gens sont tellement sollicités d'acheter, d'augmenter leurs dépenses, que dès que l'argent qu'ils gagnent leur permet de mener un certain train, ils veulent immédiatement mener un train supérieur. Par exemple, s'ils ont une machine à laver, ils en veulent une plus belle. S'ils ont une voiture, ils veulent la voiture nouvelle, celle qui a les nouveaux systèmes, le réfrigérateur, le lavage à l'extérieur,
c'est
le
chauffage
à l'intérieur, la bibliothèque,
c'est
la radio,
ça, le porte-bouquet. C'est ça, le bonheur.
En tout cas, c'est ça, le progrès. C'est ça, le progrès.
C'est ça, le progrès, le bonheur.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que pour obtenir ça, les gens s'endettent parce qu'ils achètent ça tellement facilement. Ils peuvent avoir une nouvelle automobile $100.
Quelle chance, ils peuvent faire des dettes. Est-ce que tu peux faire des dettes ici?
Non, mais c'est
bientôt
pas drôle.
Ils vivent tous
dans la hantise de perdre leur situation. Parce que d'abord, les lois qui protègent les travailleurs sont très souvent moins parfaites qu'en France.
C'est certain, oui.
Et on peut très facilement ficher les gens à la porte en 24 heures sans aucune indemnité et sans avoir à se plaindre d'eux. Et tu sais ça comme moi.
Pierre Balmain.
Mais je dirais, sous mon angle personnel, qu'en effet, cette recherche de l'amélioration du confort m'est apparue quand je suis arrivé à New York par le nombre très grand, c'était en hiver, par le nombre très grand de manteaux de vison qu'on voit sur les femmes. C'est extraordinaire. Je crois que l'Amérique est vraiment, au monde, le pays où se promènent le plus de bêtes de cette race-là, de visons morts sur des créatures vivantes. Et pour revenir à ce que disait Maître Henri Torres tout à l'heure, il a analysé l'Amérique à travers New York. J'ai eu la chance, pendant les 5 semaines que j'ai passées là-bas, de voyager pas mal et de connaître à la fois la vie de New York et la vie au Texas et la vie à Boston aussi. Et si je pense qu'en effet, les conditions générales ils sont semblables, si ce fair play dont il a parlé existe partout, il est cependant des différences dans la vie quotidienne de ces villes-là qui sont tellement flagrantes qu'on n'a pas du tout l'impression d'habiter dans un pays qui a une unité politique en somme.
C'est ça, Maître Henri Torres a dit ici. L'Amérique, c'est New York. Alors oui, j'aime l'Amérique.
Mais ça n'est pas New York, je ne crois pas, parce que rien n'est plus éloigné de New York que Boston, par exemple. Boston, où l'on se croit beaucoup plus à Londres qu'en Amérique, où les maisons sont presque toutes du 18e, d'ailleurs, d'une merveilleuse architecture, où la façon de vivre des gens extrêmement puritaine est aussi éloignée que possible de la façon de vivre. Boston, qui est une ville de je ne sais combien de millions d'habitants, mais qui est une ville très importante, Boston est une ville de province. Il y règne exactement l'esprit d'une ville de province en France.
C'est ça. Est-ce qu'il n'existe pas, par conséquent, un style de vie américain?
Certainement pas.
Ça ne peut pas. D'abord, ça ne peut pas exister, parce qu'il y a de telles différences entre les différents États. Il y a une telle distance entre la Californie et l'État de New York, c'est fatalement une vie totalement différente.
Maintenant, il y a une certaine uniformité, justement, de la vie américaine. Il y a des traits qui sont la vie américaine, des choses qu'on ne fait qu'en Amérique.
Oui.
Par exemple, les soupers où les gens vont dans la cuisine en robe du soir et en habit chez les gens, c'est une chose qui ne se pratique dans aucun pays du monde.
Arriver à l'heure au rendez-vous,
l'exactitude
oui,
absolue.
Maître Henri Torres.
Alors c'est André aussi.
Il y a une province américaine, il y a même une toute petite province américaine avec les dames au chapeau vert embusquées comme partout derrière leurs fenêtres ou leurs jalousies.
Mais je crois que c'est toute l'Amérique.
C'est toute l'Amérique, mais il y a quand même dans ce pays où les populations ont des origines, des religions, des croyances diverses, quoi qu'il vous soit apparu. Alors là, je ne parle pas simplement de New York, que je connais mieux, mais de toute l'Amérique où j'ai été en conférence de propagande pour la France libre. Il y a une unité qui naît justement de ce fair play et d'une certaine tendance vers une amélioration du standard de vie des classes les plus modestes, qui fait que, compte tenu de tout ce que j'ai vu un peu partout, alors qu'il y a des choses que je n'aime pas en Amérique, le racisme anti-nègre dans les États du Sud notamment, et
même à New York.
Même à New York, non. Un certain antisémitisme au moins mondain qui s'exprime dans l'interdiction imposée aux juifs les plus riches d'aller dans les endroits les plus chics, etc.
Le Metropolitan Club, par exemple.
Même le Store Club, tout simplement, à New York. Cela dit, il y a quand même, en Amérique, une tendance, un effort vers la condition humaine qui, pour moi, la définit essentiellement. Et puis, voyez-vous, il y a une chose qui m'impressionne beaucoup, j'aime beaucoup, c'est... En Amérique, le mot chance a une signification qu'il n'a pas en France. On pense chance, c'est gagner aux courses ou risquer d'y perdre. En Amérique, avoir une chance, prendre une chance, c'est la faculté donnée à chaque être humain de partir dans la vie à condition égale avec n'importe qui. Et de pouvoir arriver au but s'il est capable de faire la course. Ben, par exemple, je prends la radio, il y a toutes les semaines d'extraordinaires concours où l'étudiant le plus pauvre, qui est souvent de jour ou de nuit garçon d'ascenseur, peut venir devant la radio, il va passer là une série de concours, des épreuves. S'il tient 10 minutes, il aura un prix important, un quart d'heure, un prix énorme. S'il tient 20 minutes ou 25 minutes, s'il franchit une série d'éliminatoires, il deviendra speaker de radio naturellement. Et dans toutes les professions et pour tous les gens, il y a toujours cette possibilité de se produire, fronter le public, de courir sa chance. Chaque citoyen américain, d'ailleurs persuadé, qu'il peut devenir président des États-Unis. Il y a là-dedans une part d'ingénuité, d'illusion, de cette merveilleuse, mais tonique naïveté américaine. Mais il y a aussi ce sentiment que chaque être humain part dans la vie à chances égales. Je ne le cache pas, j'aime profondément ça. Et c'est ce qui, peu à peu, a fait que je suis devenu un ami de l'Amérique et que j'ai confiance dans ce peuple qui n'a probablement pas la majorité politique nécessaire pour les grandes responsabilités internationales qui lui incombent aujourd'hui, mais qui, peu à peu tout de même, parviendra à acquérir cette majorité en vertu justement de cette majorité politique, cette majorité qui lui permettra de faire face à sa grande mission dans le monde, en raison de ce qu'il y a chez les Américains, cet appétit, cette volonté, cette ambition fervente de donner à chaque être humain toute la possibilité de s'épanouir dans la plénitude de ses moyens et de ses droits.
Est-ce qu'une des choses qui vous a frappé le plus, justement, c'est la jeunesse en Amérique et la part qu'on donne à la jeunesse.
Oui.
La jeunesse du public. Vous parliez de manteau de vison. En France, il y a moins de manteaux de vison qu'en Amérique parce que nous sommes moins riches. Mais même dans les époques, les manteaux de vison étaient pour les vieilles dames. En Amérique, ce sont des filles de 20 ans qui les portent. Et si en France, quand vous allez dans certains endroits mondains, vous n'y voyez que des gens de plus de 40 ans. Et en Amérique, vous n'y voyez pour la plupart que des gens de moins de 25.
On a du respect.
Et je veux dire que c'est la même chose. Et dans des bureaux, à des positions importantes, à des positions de directeur d'entreprise, de directeur de services importants, on trouve toujours des gens beaux qui ont en moyenne 15 ans de moins qu'en France.
Mais je m'excuse, je t'avais coupé tout à l'heure pour te dire qu'on n'a pas le droit de vieillir, car en effet, on se demande en Amérique où sont les vieux.
Ils meurent. Les femmes vivent très vieilles.
Trop vieilles.
Elles sont très méchantes à ce moment-là. Très laides.
Elles sont très laides, mais elles sont très riches, car il y a une chose qu'on ne sait pas en France, c'est que 80% de la fortune des États-Unis est entre les mains des femmes. Et parmi les femmes, justement, la plupart des veuves.
Qui habite au Plaza.
Remarque
les veuves du Plaza, c'est très clair.
Remarque que les jeunes sont jolies. Ce sont vraiment les plus jolies filles du monde, n'est-ce pas?
Les plus jolies.
Toutes les femmes les envient et tous les hommes en ont envie.
Maître Torres n'est pas l'air d'accord.
Non, là-dessus, j'ai aucune opinion personnelle. J'ai aucune opinion personnelle à formuler, ne serait plus de mon âge. Non, mais ce que je dois dire, c'est qu'en vérité, l'Amérique est sous la domination des femmes, non pas simplement sous la fortune, sous l'angle de la fortune, Mais les femmes font la mode, et la mode littéraire, elles font,
en général,
elles arbitrent le,
la morale,
le cinéma, là. Ça ne réussit pas toujours, c'était une censure bénévole, vous le savez, payée d'ailleurs très richement par les maisons de production elles-mêmes, qui est responsable de ces fins ridicules des meilleurs films américains. Mais il faut dire que ce complexe d'infériorité que les hommes américains ont éprouvé à l'égard des femmes et qui ont amené les femmes à jouer dans la société américaine ce rôle, disons-le très franchement, en baissant la voix, mais un peu excessif, hein, ce complexe d'infériorité qui a une origine historique, on se battait comme dans les premiers films, ce mille pionniers se battaient pour la femme unique, et les femmes en ont pris un avantage qu'elles n'ont pas encore perdu, mais elles tentent à le perdre parce que l'Américain réagit.
Aujourd'hui, ce sont les femmes qui disputent les hommes.
Voilà.
Pierre Balmain. Mais on vient de me proposer une chose qui m'intéresse passionnément et qui corrobore exactement ce que vous venez de dire sur l'importance des femmes en Amérique. On vient de me proposer de créer une collection spéciale pour les femmes présidentes de clubs de femmes américains. Parce qu'on n'a pas pensé en Amérique encore à la mode pour la femme. Qui arrivait à un certain degré de fortune, à un certain âge, qui est une mère. Enfin, la dame américaine qui est venue m'exposer l'histoire m'a raconté tout ça en me disant on ne réalise pas qu'en Amérique, à partir d'un certain âge et d'une certaine situation du mari, les femmes n'ont plus rien à faire que d'aller au club l'après-midi et que le club est la chose qui a la plus grande importance dans la vie féminine d'une certaine bourgeoisie américaine en province. Et je crois que je vais accepter cette proposition qui me passionne parce qu'il est amusant d'étudier le problème de ces femmes qui ont à parler en public, qui doivent rester tout en étant élégantes, très dignes, et parce qu'elles ont une influence qui n'est pas du tout frivole et qu'elles prennent part, en somme, à la vie sociale de l'Amérique d'une façon très importante.
Évidemment, le couturier des présidents, ça ne serait pas...
Nous vous faisons confiance pour associer la mode et la respectabilité. Ainsi, vous aurez mis, si j'ose dire, dans le 1000 américains au maximum.
Oui, ouais.
Maurice Bessy.
Ah ben moi, je suis très content parce que quand même, il a suffi qu'on parle 10 minutes des États-Unis pour qu'immédiatement, on parle également de cinéma. Et je crois qu'il est impossible de parler des États-Unis sans se référer immédiatement à cette prodigieuse industrie, car c'est souvent là-bas davantage une industrie qu'un art, que le cinématographe. Je viens d'Hollywood, j'ai approché pas mal de personnalités du cinéma, et il y a là-bas également cette crise de la jeunesse qui joue, étant donné que dès que les acteurs ou les metteurs en scène ont atteint un certain âge, on n'en veut plus, il y a un énorme renouvellement, et comme ce renouvellement n'a pas donné entièrement satisfaction, il y a une crise affreuse, une crise qui fait que Mme Greta Garbo, qui est quand même une des plus grandes vedettes du cinéma américain, ne tourne pas sous prétexte qu'elle est trop âgée.
Et cette caractéristique du fair play américain est valable pour le cinéma également?
Je crois qu'il y a au cinéma beaucoup plus de cruauté. C'est une industrie et un spectacle où il faut un renouvellement constant. Et je dois dire que les vedettes ont une vie assez relative, assez éphémère, et que dès qu'elles ne sont plus vedettes, on les traite avec une cruauté. Je crois que tu ne me démentiras pas, mon cher.
C'est vrai, mais je crois que ce n'est pas particulier au cinéma. Je crois que c'est dans tous les domaines. Je crois que c'est même dans les milieux commerciaux ou industriels.
Nous sommes d'accord pour une fois, alors.
Oui.
Je vous en prie, Maurice Van Mopes, vous pensez qu'on ne veut pas de vieux en Amérique?
Non, absolument pas.
Mais qu'est-ce qu'on en fait? Enfin, on ne se coupe pas le cocotier.
D'abord la vie que mènent les gens qui travaillent. Et une vie qu'ils étudient très jeune, parce qu'ils travaillent, ils arrivent à leur bureau le matin à 10h, ils travaillent sans déjeuner toute la journée, et c'est très important de déjeuner. Ils n'ont pas le temps de déjeuner, et à partir de 6h du soir, ils boivent.
Si bien qu'à Hollywood, par exemple, on meurt à 50 ans, très souvent, d'une crise cardiaque en général.
C'est gay, Pierre Balmain.
Ah non, moi je dois dire que tout de même, je n'ai pas vu l'Amérique sous un jour aussi noir, que j'ai dû rencontrer beaucoup de gens beaucoup plus âgés que ça et qui se portent encore très très bien. Moi je crois que pour revenir à ce que nous avons dit tout à l'heure, si le fair play permet aux jeunes de se faire leur place, on a la même cruauté après pour laisser passer d'autres, et que c'est tout simplement une question d'honnêteté.
On peut vivre très bien en Amérique. Prenez un exemple, le maréchal Pershing. Qui vit là dans l'hôpital militaire de Washington, où d'ailleurs le général de Gaulle est allé lui rendre visite, et
La première chose que lui a dit le maréchal Pershing, je n'étais pas très au courant, mais...
Les généraux vivent toujours,
pas vieux. Le maréchal Pershing lui a dit, et que devient mon vieil ami le maréchal Pétain? Le général de Gaulle lui a répondu, il y a quelques années que je ne l'ai pas vu. Quand vous le reverrez, il dit, ne manquez pas de lui présenter. Mais si on vit très vieux,
c'est la condamnation de la vieillesse.
Quelquefois, il est certain que ce qui, évidemment, caractérise l'Amérique, c'est qu'elle ne regarde pas en arrière, peut-être passé. Enfin, la contrepartie, et dont je crois elle est bénéficiaire de cela, c'est qu'elle regarde en avant. Et qu'en effet, tout est dirigé vers la jeunesse. Et que dans la naïveté de ce peuple, dans sa candeur, il y a cette chose extrêmement réconfortante, c'est qu'on voit cette jeunesse perpétuellement en mouvement, perpétuellement en travail, et qu'on a l'impression qu'il en sortira quelque chose.
Pierre Balmain, Maurice Bessy, Maître Henri Torres et Maurice Van Mopès ont dit ce qu'est la vie quotidienne aux États-Unis.
Vous venez d'entendre La Tribune de Paris, une émission du journal Parlé de la radiodiffusion française.
Nous rappelons que les opinions émises à La Tribune de Paris n'engagent la responsabilité que de ceux qui les expriment.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 10 septembre 1947. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.